Aimé Serge Singabingba, bonjour.
Bonjour Claire.
La République centrafricaine a disputé 3 matchs pour 3 défaites lors de sa dernière participation aux éliminatoires du Mondial 2023 à Benguela en Angola. En tant que président de la Fédération de basketball, qu'est-ce qui explique cette défaite successive?
Je vous remercie de me donner l'opportunité de donner mon sentiment sur cet échec. D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons secondaires et il y a une raison principale. Les raisons secondaires, l'entraîneur en a parlé. Avant le premier match, l'équipe ne se retrouvait sur le terrain que 1 heure de temps pour la reconnaissance du terrain parce que nous étions arrivés tardivement à Benguela. Vous savez que pour ces fenêtres, on a 1 semaine, il y a 4 jours d'entraînement et puis 3 jours de tournoi. Or là, on a eu 1 heure de tournoi, donc ça peut effectivement jouer sur la performance des joueurs. Et puis, je peux aussi dire que l'absence de notre américano-centrafricain Kevarius Ice a certainement joué dans ces résultats-là.
Mais pourquoi il n'est pas venu?
Effectivement, il devait venir et le problème, c'est le fait qu'on se prend toujours en retard et le routing, en ce qui concernait sa venue, n'était pas très adéquat et donc il n'a pas pu prendre le vol pour Benguela. Mais la raison principale de cet échec, j'ai eu l'occasion de le dire lors de ma conférence de presse, est dû à l'ingérence du ministre dans les activités de la Fédération centrafricaine de basketball.
En quoi est-ce que cette ingérence du ministère de la jeunesse et des sports dont vous faites mention peut-elle impacter le jeu sur le parquet?
Il faut être dans des bonnes conditions, à la fois physiques et morales, pour disputer un tournoi de ce type. Malheureusement, à 1 heure du tournoi, le ministre, pour faire des économies, a décidé de dire aux joueurs qu'ils n'allaient pas recevoir ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir, c'est-à-dire 1 500 € de primes de sélection, alors que c'est depuis 2009 que cela se fait. Et donc, moralement, les joueurs étaient démoralisés. Ensuite, il a décidé que, malgré qu'il y avait une ligne prévue pour ça, il y avait des produits pharmaceutiques qu'il fallait pas acheter pour faire des économies. On sait très bien qu'il y a certains produits, quand on a déjà ouvert la boîte, on ne peut plus les utiliser, même si la date de péremption est encore valide. Il a décidé aussi de ramener le directeur technique national limogé, qui a eu un impact négatif sur les joueurs. À la mi-temps du match contre la Côte d'Ivoire, ce directeur technique, en rentrant dans les vestiaires, alors qu'il avait promis de ne pas le faire, a perturbé grandement notre meilleur marqueur du moment, qui est Evans Kanapamo. Je crois que le ministre se trompe quand qui s'ingère dans la gestion de la fédération, parce que la qualité d'une gestion ne se mesure pas à l'aune de l'argent qu'on ramène à la caisse de l'État. Et puis en plus, sur 85 ou 88 millions, ramener 1 million, je ne crois pas qu'on ait fait un exploit pour le faire. Mais la qualité de la gestion se mesure aux résultats qu'on obtient en fonction des fonds qu'on met à votre disposition. Donc ces fonds-là doivent aller vers les lignes budgétaires prévues à cet effet. Malheureusement, le ministre n'a pas entendu ça de cette façon-là. Il est devenu l'ordonnateur à la place de la fédération et j'espère qu'il va nous sortir son rapport d'ordonnateur.
Ces défaites ne sont-elles pas dues aussi à l'indiscipline de certains joueurs, car nous avons appris de sources sûres qu'à la veille de certaines rencontres, certains joueurs ont passé la nuit avec des femmes dans leur chambre d'hôtel. Qu'est-ce que vous en dites?
Vous savez, moi je suis un homme responsable. Je n'affirme pas les choses sur la base d'allégations non fondées, non vérifiées. Vos sources sûres, j'aimerais les avoir. C'est pour ça que j'ai été indigné par les propos tenus par l'ancien directeur technique national limogé qui s'en est pris aux joueurs. Parce que, premièrement, il n'y a pas de preuves avérées. Et même s'il y avait des preuves avérées, il n'y a aucune raison d'afficher publiquement un certain nombre de choses qui se passent au niveau de l'équipe nationale. On peut les régler, on peut sanctionner, mais encore faut-il que cela soit avéré. Moi, j'ai eu des joueurs qui m'ont appelé avec leur famille. L'accusation a été lancée sur tous les joueurs et il y a des joueurs qui ont été vraiment avec leur femme affectés par cela. Et ce n'est pas une bonne chose. Déjà qu'on a démoralisé les joueurs avec ces problèmes de manque de financement de certaines lignes. Vous avez le joueur Kanapamo qui était blessé, qui n'a pas pu être correctement soigné et qui n'a pas joué le dernier match. Mais ensuite, on les salit avec une histoire qui n'est pas vérifiée. Et je trouve que le rôle des responsables d'une fédération, c'est d'être juste et sérieux dans leurs propos, de ne pas lancer d'attaque et d'anathème contre leurs propres joueurs.
Pour vous, ce fait d'indiscipline ne doit pas être mis à portée du grand public?
Non, je ne dis pas ça. Mais je dis simplement que quand les faits ne sont pas avérés, quand il y a des faits avérés, on fait des enquêtes, on convoque les joueurs et puis on prend des sanctions. On n'a pas forcément besoin que ces sanctions-là ou que ces faits-là soient rendus publics, soient mis sur la place publique. Moi, je dis simplement que ces faits n'étaient pas avérés et je soutiens mes joueurs parce que beaucoup m'ont appelé pour dire que c'était faux.
Une deuxième étape attend la République centrafricaine au mois de juillet 2022, toujours pour les éliminatoires du Mondial 2023. La République centrafricaine a-t-elle encore une chance de se qualifier pour l'étape suivante?
Nous avons encore une chance et nous sommes motivés. Vous savez, il y a un certain nombre de joueurs de la diaspora qui n'ont pas pu nous rejoindre à Benguela parce que leur dossier administratif n'était pas complet. Aujourd'hui, certains, nous avons déjà réussi à compléter leur dossier administratif, notamment les frères Kimoto. Nous allons faire la même chose pour Arthur Bouba. Nous allons travailler pour le jeune Yengete. Nous allons avoir du renfort, vous savez, qui va arriver. Si nous voulons réussir la deuxième fenêtre, c'est premièrement que ces joueurs que nous allons faire venir nous retrouvent effectivement. Deuxièmement, le ministre nous laisse travailler. Nous pensons que c'est dans la paix, dans la sérénité que l'équipe nationale réunit autour de son staff technique, autour du bureau fédéral, pourra faire un travail sérieux, un travail de fond. Et vous verrez les résultats si nous sommes dans ces conditions-là pour travailler avec nos jeunes.
Donc, ce sont là les stratégies que le bureau fédéral compte mettre en place pour espérer au moins une victoire pour la deuxième fenêtre de juillet.
Oui, tout à fait, parce que nous devons avoir toute l'équipe en place. Nous espérons, nous allons tout faire pour que cette fois-ci, vous savez, ce qui s'est passé aussi, c'est que pour les billets d'avion, c'est le ministre qui a tout organisé. Et donc, on a vu ce qu'on a vu, qu'Evariste n'a pas pu prendre son billet, son avion, parce que c'était au dernier moment et c'était assez compliqué.
Lors de votre conférence de presse le vendredi 10, vous avez pointé du doigt le ministère de la Jeunesse et des Sports de l'ingérence dans les affaires du bureau fédéral. Ne pensez-vous pas que c'est un bras de fer inutile puisque vous êtes appelés à travailler ensemble?
Moi, j'ai envie de travailler en collaboration, en bonne intelligence avec le ministère de tutelle. Mais ce que vous appelez bras de fer, ce sont des faits. Les faits sont têtus, ce ne sont pas des discours, ce sont des faits. Quand le ministre s'oppose au limogeage d'un DTN alors que nos textes sont clairs, ce DTN doit être proposé par le bureau fédéral, ça veut dire que ce DTN doit être avalisé par l'ensemble du bureau fédéral, ça pose problème. Vous savez que le DTN que nous avons limogé, nous s'entend avec personne, ni avec le bureau fédéral, ni avec le staff technique. Vous avez eu la démission de Gabin Marida, vous avez eu la démission de fait de Zianvili, ni avec les joueurs. Je ne cherche pas de bras de fer. Moi, je veux qu'avec le ministre, nous travaillons en intelligence. Et pour cela, il faut que les faits puissent nous démontrer qu'aujourd'hui, de la part du département, ils sont à l'écoute. Parce que nous sommes là pour mettre à exécution le programme sportif du gouvernement dans le domaine du basket.
Vous avez limogé le directeur technique national, Monsieur Eugène Pewa Pelema, mais il est maintenu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ne pensez-vous pas que ce conflit bloque le développement du basketball en Centrafrique?
Vous savez que si cela continue, c'est-à-dire que si le ministère de la Jeunesse et des Sports continue à nous mettre ce que j'appelle des bâtons dans les roues, ça va poser problème au niveau de FIBA. Parce que dans les réunions techniques à Benguela, FIBA a effectivement acté le fait que le directeur technique national ne pouvait pas participer à ces réunions-là.
Vous avez alerté FIBA?
Mais nous avons dit à FIBA que tel ne devait pas venir parce qu'il n'est plus dans notre équipe. Si cela continue, FIBA nous demande de dire si effectivement le ministre nous pose problème. Je peux vous assurer que nous serons sanctionnés. Et moi, je pense qu'il faut que ça cesse parce que ça peut pénaliser le basket centrafricain.
Monsieur Aimé Serge Singabengba, merci.
C'est moi qui vous remercie, Claire.